Aujourd'hui, le 6 décembre, chacun sait que c'est la fête de Saint-Nicolas, un saint qui est très réputé, très apprécié, d'autant plus qu'il est devenu, pour ainsi dire, le Père Noël, et malheureusement oublié. Alors les gens qui sont attachés à Saint-Nicolas luttent contre le Père Noël. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, et même ici, à Ville-Marie, à Montréal, dans certains endroits, dans des maternelles, eh bien, les gens, avec beaucoup de délicatesse, entourent les enfants de soins particuliers aujourd'hui en leur donnant des cadeaux, puisque dans ces enfants qui viennent de différents pays, nous en avons tellement maintenant ici à Montréal, que ça permet à des gardiens comme ça, dans des garderies, de développer de l'intérêt pour Saint-Nicolas et de charmer les enfants en leur donnant des cadeaux selon les traditions anciennes d'autrefois. Noël s'en vient, alors je pourrais vous raconter des histoires comme on en raconte aux enfants quand il s'agit de la vie de Saint-Nicolas. C'est une vie très particulière qui a été écrite après sa mort, lui qui serait décédé au 4e siècle, il était évêque de Myre. Et un des faits que l'on raconte et qui ont entraîné, si on peut dire, tout cet intérêt pour Saint-Nicolas et les enfants, c'est évidemment l'histoire des enfants qu'il a sauvés, qu'il a, pour ainsi dire, ressuscité, n'est-ce pas, deux écoliers, ailleurs on dit trois petits-enfants, avait été égorgé par un aubergiste de Myre, où Saint-Nicolas était évêque. Et cet aubergiste les avait mis au saloir. Au saloir, c'est-à-dire, comment dire, pour conserver la viande, je m'excuse du mot, n'est-ce pas, en parlant d'enfants, eh bien, avec du sel en particulier, de la saumure, etc., on gardait la chair comme ça. Alors, il est mis au saloir, comme du porc, pour garder le porc. Le saint, Saint-Nicolas, averti par un ange, a ressuscité les victimes, les trois enfants. Il a réprimandé cet aubergiste au cœur mauvais. Alors, à partir de là, bien, on dit que Saint-Nicolas prend soin des enfants. On le recommande, on lui recommande ses enfants, les enfants des voisins. Alors, je vous raconterai toutes ces histoires un peu plus tard. Mais comme nous attendons la venue de Jésus qui est déjà venu, nous l'avons en nous, nous qui croyons. Nous le recevons comme nourriture à l'Eucharistie pour nous nourrir davantage de sa douce présence. Pour le faire grandir en nous, c'est-à-dire qu'il est toujours immense et grand, il est infini, mais pour qu'il grandisse à l'intérieur de tout nos petites chambres à l'intérieur de notre petit château croulant au fond de notre cœur, notre château intérieur, afin qu'il occupe toutes les pièces, et qu'il soit partout, alors qu'il anime notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, nos désirs, nos aspirations, tout ce qui fait que l'on puisse aimer. Il anime nos regards, qu'il anime nos membres, nos pieds, nos jambes, pour qu'il nous mène partout où il a besoin de nous, auprès des plus malheureux, qu'ils soient riches ou pauvres. Il a besoin de nos mains, de nos bras, pour soulever des cadeaux, des paquets, des choses, pour serrer contre nous les gens les plus délaissés. C'est pour ça que l'on communie, c'est pour ça qu'on écoute sa parole, et c'est pour ça qu'il a fondé une église. Car on dit souvent, le Christ a-t-il fondé une église? A-t-il fondé l'église? Oh. C'est une question qui semble difficile. Mais on sait fort bien que Jésus, vers l'an 27, il serait mort, n'est-ce pas, en l'an 30, le 7 avril de l'an 30. Donc en 27, il commence sa prédication. Il choisit des disciples pour l'accompagner dans sa mission, et on trouve ça dans Saint Matthieu, à plusieurs endroits, particulièrement au chapitre 4, versets 18 à 22, et aussi au chapitre 10 au début. Et parmi eux, bien, Pierre reçoit la primauté. Il est nommé chef de cette église. Vous direz que j'exagère et que je triture les textes, mais nous verrons tout à l'heure. Ce beau texte sur Saint-Pierre, sur le pape, quoi. Pour nous, catholiques, c'est ainsi que nous l'interprétons de très longue tradition. Eh bien, c'est dans Saint-Matthieu, je vous donne cette référence précieuse, Saint-Matthieu, chapitre 16, versets 17 à 19. C'est facile, 16, 17, 18, 19. Chapitre 16, versets 17, 18, 19. Et en l'entrant, 3 ans plus tard... Mais évidemment que ça, tout ça, c'est pas déroulé en l'an 27, c'est de l'an 27 à l'an 30. Bon, en l'an 30, après sa résurrection, Jésus envoie ses apôtres en mission universelle. Hein? Il les envoie en mission universelle, il leur donne un mandat, comme s'il avait fondé une église, quoi. Ça, c'est dans Matthieu 28. Hein? Et dès l'an 34 ou 36, il y a la conversion de Saul, qui devient Saint Paul. Vous la connaissez, cette conversion, sinon je vous en parlerai. Et entre 46 et 48, donc très tôt après la mort de Jésus, sa résurrection, c'est 16 ans, 17 et 18 ans après, le premier voyage missionnaire de Paul en Méditerranée. Et là, tout s'étend, et c'est l'émerveillement devant cette nouvelle façon de comprendre la relation de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Les évangiles sont assurément les témoins de la foi des premières communautés chrétiennes. Et précisément, la foi de ces communautés, de ces groupements, portait sur ce que les apôtres avaient entendu. Ce qu'ils avaient vu de leurs yeux, ils le disent, hein? Je cite la première épître de Saint Jean, au tout début de la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Voici ce qu'il dit. « Ce que leurs mains avaient palpé du verbe de vie. » Vous direz que je comprends. Peut-être une ou deux personnes se disent, mais je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. « Ce que leurs mains, leurs vraies mains, là, avaient palpé du verbe de vie, c'est-à-dire que le Christ est le verbe éternel. » La parole éternelle du Père, c'est ainsi qu'on le désigne pour exprimer qu'il vient du cœur et du fond du Père. Il est égal au Père, il est le Fils, comme on dit, mais il n'est pas inférieur. Il est une personne unie à ce point qu'il ne forme avec son Père qu'un seul Dieu, unie par l'amour qui est l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. C'est difficile de parler de la Trinité, on en parle avec des mots humains. Des mots qui, à peine, approchent de très loin le mystère de la Trinité qui est si beau. Or, les auteurs sacrés qui ont écrit les textes du Nouveau Testament ont réussi, malgré évidemment toute la difficulté qu'ils avaient de mettre en ordre des souvenirs qui étaient vieux de quelques années, de plusieurs années même, mais ils ont réussi à situer géographiquement, puis historiquement, l'œuvre de Jésus, ça on le sait, on les a dans les évangiles en particulier, et aussi dans les actes des apôtres, les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Alors on les a avec une précision remarquable aux yeux de l'historien. Oh, on a critiqué au 19e et 18e siècle la valeur de ces textes, mais on en est bien revenu depuis. Les historiens les plus savants, les plus sérieux, ont circonscrit et ont vu le caractère historique de ces textes dans leur ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans certains textes des caractères de midrash, c'est-à-dire de symboles, de... Il ne faut pas prendre en tous les cas à la lettre. Et on peut distinguer par soit le style, la façon dont c'est fait. Et les historiens, les exégètes, les spécialistes de la Bible nous le disent bien. Bon. Je reviens donc pour toujours cette question si le Christ a fondé une église, hein? Parce que là, nous l'attendons. Nous allons le fêter le 25 décembre. Mais qui allons-nous fêter? Allons-nous fêter vraiment le fondateur de l'église? Je crois que oui. Or, on voit assez clairement que Jésus a entrepris une action à deux niveaux différents. Bon, premièrement, ce premier niveau-là, il prêchait aux foules. Bon, il guérissait les malades. Puis, évidemment, on le sait, il polémiquait avec les pharisiens. Il était assez dur avec certains pharisiens. Pas qu'il ne les aimait pas. Non, non, non. Il leur reprochait certaines choses, à certains d'entre eux, qui étaient pénibles. Et tous les pharisiens n'étaient pas pareils, hein? D'autre part, Jésus formait ses disciples. Il les lançait dans la mission. Bon, on a ça dans Luc au chapitre 9. Je vous lis les petits passages, là. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Les disciples partirent, c'est plus loin, les disciples partirent. Ils passaient dans tous les villages, annonçaient la bonne nouvelle, etc. Donc, ils faisaient quelque chose de particulier, de différent des autres juifs. Jésus les prenait à part, hein, pour leur permettre de se reposer. Il leur expliquait les paraboles, on trouve ça dans Marc au chapitre 4. Il leur donnait un enseignement particulier plus approfondi. Ça, c'est un des signes les plus évidents qu'il fondait quelque chose, là. Il donnait un enseignement particulier, plus approfondi. Il faisait route avec eux. Il vivait avec eux. Il mangeait avec eux. Et le groupe des 12 était à ce point uni à sa personne qu'après la multiplication des pains, le souvenez-vous, lors de son abandon par la foule, seuls les apôtres lui sont restés fidèles. On trouve ça dans Jean, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, au verset 67. C'est un long chapitre, celui-là. Jésus dit alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir, vous aussi, hein? Êtes-vous déçus de moi? Voulez-vous vous en aller comme tout le monde? » Et Simon-Pierre lui répondit cette parole que nous devrions tous avoir dans notre cœur continuellement du matin au soir et du soir au matin. Que c'est beau ce que Saint-Pierre dit, ce premier pape. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. S'il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissaient pas cette parole, je vous la répète, c'est tellement beau. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Pensez à tous ces gens qui vont d'un côté et de l'autre, de Raël à je ne sais qui. C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Et Saint-Pierre avait bien raison. On peut mettre en doute, on peut ne pas avoir la foi. Je comprends. Mais j'aimerais que ceux qui n'ont pas la foi entendent cette parole et essaient d'y réfléchir. Oh, je ne les blâme pas de ne pas avoir la foi. Mes meilleurs amis ne l'ont pas, et je les aime beaucoup. Et alors, pendant les derniers mois de sa vie, Jésus, qui était traqué par les notables, a parcouru le pays, là, suivi de sa petite troupe, toujours sa petite troupe qu'il essaie de préparer au dénouement tragique. Hein. Il les avertit, et la dernière scène, le jeudi saint au soir, manifeste bien que Jésus ne comptait plus que sur ses apôtres. Il ne s'était jamais fié à ceux qui le flattaient. On devrait faire la même chose, nous tous. Ne nous fions jamais à ceux qui nous flattent. Il ne se fiait jamais à ceux qui l'interrogeaient. Il n'avait guère d'illusions sur cette génération qu'il considérait assez sévèrement. Il est sévère parfois, Jésus. Cette génération qu'il considère mauvaise et adultère, hein, trouve ça dans Saint-Luc. Mais, par contre, Jésus livre l'intime de son âme à ceux, ses apôtres, qu'il appelle désormais ses amis. Quel beau mot dans la bouche de Jésus à l'égard de ses apôtres. Je me souviens de mon petit-fils qui me disait, « Grand-papa, il était tout jeune dans son grand-papa. Es-tu un ami de Jésus, toi? » Je dis, oh oui, je suis un ami de Jésus. Je l'aime tellement que je le prie tous les jours au moins une demi-heure, une heure. Ah, il dit que je suis content, grand-papa, que tu sois un ami de Jésus. Moi aussi, je le suis. On venait de lui apprendre ça à l'école, en catéchèse. Et on voudrait supprimer la catéchèse. Et on voudrait supprimer cet enseignement aux enfants. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? D'aimer cet homme, si on ne croit pas qu'il est Dieu, d'aimer l'homme le plus merveilleux de l'histoire de l'humanité. Alors, il les appelle amis dans Luc 12, verset 4, et dans Jean, l'évangile de Saint-Jean, chapitre 15, verset 15. Et alors, tous les apôtres lui sont passionnément attachés. Et ça, c'est très important. C'est le creux et le nerf de l'Église depuis 2000 ans. Passionnément attachés. Ce qui fait l'Église, ce qui fait les saints, ce qui a fait tout ce que l'Église a pu faire de grand, de beau, de merveilleux, c'est par ceux qui étaient passionnément attachés à l'Église. Ceux qui ne sont pas passionnément attachés à l'Église, malheureusement, deviennent souvent des chrétiens pervers qui sont des marchands d'horreur en Afrique, en Asie, et qui trahissent le christianisme aux yeux de ceux qui ne le sont pas. Ils font semblant de l'être. Et c'est la même chose dans nos villes et partout. Il faut prier pour eux, pour qu'ils découvrent. Il ne faut pas les blâmer. On n'a pas à les critiquer, à les diminuer ou à les juger vraiment pour retenir son jugement. Mais il faut prier pour que l'Esprit-Saint se répande, hein, que tous deviennent comme les apôtres de Jésus, passionnément attachés au cœur de Jésus. Même si les apôtres, évidemment, ne comprenaient pas bien l'ampleur de la mission qui leur était demandée, si bien que le jour de Pâques, on peut se souvenir de ça, ils seront transfigurés de joie en voyant enfin vivant celui qu'ils croyaient mort. Et c'est à partir de ce moment, comme me disait quelqu'un qui ne croyait pas et qui avait trouvé la foi, ce qui m'a émerveillé, c'est de lire et de voir que ces hommes qui étaient faibles et qui s'étaient enfuis au moment de la mort de Jésus, bien qu'ils l'aimaient, sont revenus si puissants qu'ils ont parcouru le monde pour annoncer ce qu'on appelle la bonne nouvelle, à savoir que le Christ est vivant et qu'il nourrit nos âmes et qu'il nous donne un sens à notre vie, ce sens qui est si perdu aujourd'hui que les gens ne savent plus pourquoi ils vivent. Et Jésus n'a pas agi au hasard, hein, il a choisi 12 hommes qu'il a formés à grand-peine pour agir à travers eux. Il savait que la foule est plus ou moins versatile et que les idées passent et changent, mais il savait aussi que quelques hommes formés et décidés ont une action beaucoup plus durable et efficace qu'une masse indécise, là, puis toute divisée. Mieux valait pour lui de se centrer sur le cœur de ses 12 apôtres au début. Et Jésus n'est pas un rêveur, hein. C'est pas un poète incapable d'organiser, de prévoir, non, non. C'est pas un moraliste inconscient des réalités concrètes de la vie sociale. On voit plutôt chez lui un homme décidé. Jésus, c'est un homme décidé. C'est pas un mièvre avec du blue shadow et du rouge à lèvres comme on le voit dans des statues abominables. Il n'est pas mièvre. C'est un homme décidé, solide, les deux pieds à terre, énergique, lucide, qui prend les moyens adaptés pour la mission qu'il accomplit. C'est pas un mollasson. C'est un homme courageux, décidé, hein, en constituant d'ailleurs le groupe des 12, puis en choisissant Pierre comme chef. Quelle audace! Un pêcheur. Puis il entend bien jeter les bases du futur rassemblement de ceux qui croiraient en lui. De fait, dès que les apôtres sont confirmés dans la foi à la résurrection et à la Pentecôte, là, il faut pas oublier la Pentecôte, mais l'expansion de l'Église se fait de manière ordonnée et cohérente. Hein? La Pentecôte, c'est ce jour où après la résurrection, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien ce que c'est que la Pentecôte, c'est ce jour où rassemblés avec des disciples très nombreux, l'Esprit-Saint s'est emparé de ceux qui avaient adhéré à la foi chrétienne naissante. Et l'Esprit-Saint, qui est l'Esprit d'amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui unit le Père et le Fils de toute éternité. Et cette troisième personne de la Trinité, égale aux deux autres, est puissante dans l'amour, et qui envahit les gens au point de leur ouvrir les yeux et les oreilles. Ils entendaient les langues dans leur propre langue. Et leur cœur a bondi, ils sont devenus des apôtres eux aussi, comme nous devrions tous l'être si nous voulons changer cette société qui se perd, si nous voulons empêcher les suicides, si nous voulons éviter que les femmes soient battues comme elles le sont ou assassinées comme elles le sont ces jours-ci, c'est terrible. Quel respect a-t-on pour les femmes? Quel respect a-t-on pour nos femmes, les mères de nos enfants? Nos sœurs, quel respect! Quand on sait ce que c'est que la femme étroitement unie au Créateur pour mettre des enfants au monde, les élever, leur enseigner la joie, le bonheur de vivre, d'une vie éternelle qui leur est donnée dans leur sein, c'est les mères qui portent ça, ces enfants-là. Ce sont des êtres les plus mystérieux, bien plus mystérieux que les hommes. On n'a plus de respect. Et alors, les apôtres confirmés donc dans cette foi à la résurrection et à la Pentecôte, ça a entraîné l'expansion de l'Église, qui s'est faite de manière ordonnée et cohérente, il faut lire les textes, malgré la rapidité des événements et la multiplication des phénomènes spirituels. Les phénomènes spirituels qui sont souvent générateurs de désordre, où il y a eu des difficultés, mais toujours ça s'est maintenu dans l'unité profonde, malgré les schismes, les hérésies et les choses. L'autorité des apôtres était incontesté, il faut lire dans le livre des Actes des Apôtres. Je vous donne la référence, écrivez-la si vous voulez. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33, je vous lis le texte. « C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. » Mais je continue. « La communauté est organisée hiérarchiquement. » Oui, oui, hiérarchiquement. Et lorsque un génie comme Saul de Tarse, Paul, viendra apporter son concours à l'Église qui naît, qui est toute naissante, il saura se plier, lui, oui, oui, il se plie, ce fier juif-là, à la discipline commune. Puis il veut soumettre son évangile, sa façon d'enseigner, sa façon de parler. Il veut soumettre son évangile au comme il dit, aux colonnes de l'Église, c'est-à-dire les piliers qui ont été institués par Jésus lui-même. Il le dit où? Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 2. Voici le texte. C'est très beau ce texte de saint Paul. Où nous devrions tous, qui discutons tellement de l'Église, la critiquons et disons, « Oh, c'est plus la peine, on va quitter l'Église. Allez, allez. » Saint Paul s'est posé les mêmes questions. « J'y suis allé, dit-il, parce que Dieu m'avait révélé que je devais le faire. » Dans une réunion privée que j'ai eue avec les dirigeants, je leur ai expliqué la bonne nouvelle que je prêche aux non-juifs. Je ne voulais, écoutez bien ça, c'est très important, je ne voulais pas que mon travail passe, passé ou présent, perde toute valeur. Notre travail perd toute sa valeur quand il n'est pas uni au cœur et à l'âme de l'Église. Il faut être centré, attaché au pape. Oh, on peut avoir des objections. Mais je crois que ces objections doivent être faites avec beaucoup de respect et d'amour pour le pape. Pour la hiérarchie aussi. On peut avoir un mauvais évêque, un évêque qui est moche, que l'on n'aime pas tellement. Mais rien ne sert de s'en détacher. C'est pas en se détachant et en brisant l'Église qu'on la construit. C'est en la construisant qu'on la construit. Hein, c'est évident, la Palisse n'aurait pas dit mieux. Parce que le mot grec « ecclesia », qui veut dire « Église », apparaît d'ailleurs dans la Bible des Septante, trois siècles avant Jésus-Christ. Et ce mot « ecclésia » renvoie au mot hébreu « kahal », lequel désigne dans l'Ancien Testament le rassemblement du peuple de Dieu. L'Église, c'est ça, c'est le peuple de Dieu. Ce peuple devra réunir les élus de toutes les nations. C'est ça que dit Isaïe, le fameux prophète Isaïe, au chapitre 49, les versets 5 et 6, et je vous les lis. « Mais maintenant, le Seigneur déclare qu'il m'a formé dès avant ma naissance. Pour que je sois son serviteur, il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble près de lui le peuple d'Israël. Le Seigneur reconnaît la valeur de mon service. Mon Dieu est ma force. Il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations. » Pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. » Et c'est ça l'Église jusqu'au bout du monde. Nous ne sommes pas enfermés dans une nation, nous rassemblons toutes les nations dans l'amour de Jésus-Christ. Je continuerai tout à l'heure quelque temps sur cette question, le Christ a-t-il fondé une Église, ce Christ que nous fêtons particulièrement le 25 décembre prochain. Je continue sur cette question après vous avoir cité ce texte d'Isaïe qui annonce au fond l'Église où le peuple juif sort de cette nation juive à laquelle il appartient pour finalement couvrir le monde par la bouche de Jésus, par la bouche de ses apôtres, par la bouche des disciples, par la bouche de tous ces Juifs qui se sont d'ailleurs convertis. N'oublions pas qu'il y avait bien au moins 5000 Juifs catholiques au début. Hein? Et nous devons énormément aux Juifs. Notre religion est fondamentalement une religion juive. Et par le choix des 12 apôtres, 12, comme les 12 tribus d'Israël d'ailleurs, puis par le choix de Pierre au sein des 12, comme chef, mais Jésus a montré qu'il ne concevait pas, à mon avis, sa vision, comme, disons, l'œuvre d'un solitaire. Mais c'est évident qu'il voulait s'associer à un groupe d'hommes désignés par lui, afin que ces hommes le fassent connaître au peuple de la terre. Je crois en toute sincérité qu'on peut affirmer que le Christ a fondé une Église, afin qu'elle continue sa mission, qu'elle le continue, lui. Reste à savoir comment les apôtres ont compris et appliqué la volonté du Christ. Et ce qui frappe chez les apôtres, mais c'est qu'ils manifestent dans leurs actes et dans leurs paroles une conscience aiguë, hein, à la fois de leur faiblesse personnelle, et de leur autorité aussi qu'ils tiennent du Christ, et du Christ seul, et qu'ils exercent avec l'aide de l'Esprit Saint. Le Christ a donné à Pierre, puis ce qu'on appelle le collège apostolique, c'est-à-dire le groupe des apôtres dans son ensemble, une pleine autorité pour prolonger son action sur la terre. Vous direz, où est-ce qu'il a dit ça? Mais quand je dis que le Christ a donné à Pierre une pleine autorité pour prolonger son action sur la terre, des cieux. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. Ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. Il y en a qui comprennent pas ces paroles-là, hein? Ça les énerve. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. J'admets le premier que des fois c'est pas facile. Des fois mon intelligence est ébranlée. Mais je fais passer ma foi au-dessus de mon intelligence. Vous direz, ben c'est ça, il faut devenir un peu fou. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour croire dès le départ que Dieu existe? Et pourtant, c'est évident qu'il existe. Mais qui est-il? Comment se fait-il qu'il est là depuis toute éternité? C'est de la folie. Mais quelle douce et tendre et belle folie que de croire que Dieu existe, car il est évident, à mon avis, qu'il existe. Nous ne serions pas là s'il n'était pas là. Nous ne mettrions pas d'enfants au monde, on ne saurait pas comment les faire. C'est lui qui les fait. Moi, c'est mon point de vue peut-être bien naïf. Mais c'est ainsi que ça va. Quand on croit au Christ, on croit ce qu'il dit. Et on poursuit, même s'il fait noir à certains moments. On marche vers la lumière. Il l'a donné au collège apostolique aussi, cette autorité dans son ensemble. C'est dans Saint Jean, chapitre 20, verset 23. « Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Quelle étrange autorité, hein, sur la conscience humaine. Oh, encore faut-il l'interpréter comme il faut et lire des ouvrages à ce sujet. Il faut pas prendre ça absolument au pied de la lettre. Il faut faire très attention. Mais on a, au sein de l'Église, tout ce qu'il faut pour se renseigner. Et dans l'ordre de l'enseignement, d'abord, les apôtres doivent témoigner de la résurrection. C'est ça qu'ils doivent faire d'abord. Ils doivent transmettre aux hommes et aux femmes le message qu'ils ont reçu gratuitement. Lors même que les prédicateurs de l'Évangile se seront multipliés, mais les apôtres resteront toujours soucieux de surveiller et la cohérence des expressions de la foi et l'unité. Ils seront toujours aux aguets. Et de plus, Jésus-Christ continue à travers eux ses gestes de salut, dans le baptême d'abord, dans le baptême, qui accueille les nouveaux membres, ouvre les oreilles de leur âme pour entendre la parole de Dieu, ouvre leur cœur pour vibrer à l'amour de Dieu. C'est ça le baptême. Ça nous fait enfants, c'est-à-dire être capable d'entendre la parole de notre Père qui est sortie de la bouche de Jésus et qui nous est transmise par l'Église. Et le Christ continue aussi à travers les gestes comme l'Eucharistie et les autres sacrements. Certains d'entre vous seront peut-être surpris que je lise le message de la Vierge à Medjugorje du 25 septembre dernier. Il est très beau. On peut mettre en doute si on veut ses apparitions, mais entendons le message qui est très simple, comme une mère qui parle à ses 12 enfants. C'est la fête de l'Immaculée Conception vendredi. C'est pour ça que je veux lire ce texte qui concerne l'Eucharistie. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à tomber amoureux du très saint sacrement de l'autel. Adorez-le, petits enfants, dans vos paroisses, et ainsi vous serez unis au monde entier. Jésus deviendra votre ami, et vous ne parlerez pas de lui comme de quelqu'un que vous connaissez à peine. L'unité avec lui vous sera une joie. Et vous deviendrez témoin de l'amour que Jésus a pour chaque créature. Petits enfants, quand vous adorez Jésus, vous êtes aussi proche de moi. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est le message de la Sainte Vierge, de Marie, à la paroisse de Medjugorje en Yougoslavie, tout près de là où les bombes sont tombées, à Mostar et ailleurs. C'est le message du 25 septembre 1995. Donc, c'est donc à travers les sacrements que le Christ continue. Et les apôtres ont pleinement conscience de continuer sur un autre mode l'activité de guérison que le Christ avait entreprise. Et enfin, il revient aux apôtres de conduire cette église, le troupeau, comme on dit, que Jésus avait commencé à rassembler, puisqu'il s'applique, lui, Jésus, l'image du berger qui est un troupeau. Il s'applique aussi l'image de l'intendant. Et alors, ils comprennent ça, mais sans être jamais possesseurs du troupeau, de l'église, là. Mais les apôtres, ici leurs successeurs, ont charge de maintenir la cohésion. La cohésion, l'harmonie, parce que ça se dispute inévitablement. Comprenez, nous sommes près d'un milliard de baptisés dans l'Église catholique. Imaginez les dissensions qu'il peut y avoir. Il faut qu'ils maintiennent la cohésion, c'est très difficile, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. On reproche au pape de ne pas avoir dit ceci ou cela. Mais il dit des choses les plus admirables que les journaux ne nous rapportent pas. Mais dès qu'il parle des relations sexuelles, là on en fait des manchettes. Mais quand il parle des relations sexuelles, voudriez-vous qu'il dise n'importe quoi? Qu'il dise aux hommes, si votre femme ne vous intéresse plus, quittez-la. Ben c'est ça, elle a 35 ans, abandonnez-la, qu'elle s'arrange. C'est intelligent. Elle s'occupera des enfants même, vous pouvez vous en débarrasser ainsi. Une mère, c'est quoi, hein? Une femme, bah, on la plaque là, puis on lui laisse les enfants. On s'en occupe à toutes les deux semaines. On sort l'argent de sa poche, on les amène jouer dans des parcs, on les amène au cinéma, on les amène pendant 48 heures à toutes sortes de gâteries. Et quand ils sont bien gâtés, on les remet à la mère, qui doit se débrouiller avec un enfant gâté. Ah, ce serait ça que le pape devrait dire? Est-ce qu'il devrait dire aux homosexuels de faire tout ce qu'ils peuvent pourvu qu'ils utilisent des condoms? Est-ce qu'il devrait dire n'importe quoi? Non, il devrait se taire, il devrait rien dire. Mais le Christ, lui, n'a-t-il pas parlé? Il a même dit, Jésus, qu'un simple regard, qui était un regard de prise de possession charnelle et bête, qu'un homme jette même sur sa femme, qu'il ne considère plus comme une épouse, mais comme simplement un objet de plaisir, n'est pas digne. Jésus est bien plus sévère. Allons-nous dire à Jésus, « Tais-toi, assis-toi, tu dis des sottises, ne parle plus. » Essayons donc de comprendre ce que Jésus veut dire. Que la liberté, le bonheur existent, mais encore faut-il suivre ses conseils. Et alors les apôtres sont chargés de garder la cohésion de l'Église, la fidélité, veiller... pour veiller à l'accroissement aussi de l'Église. Ils agissent le plus souvent avec un grand respect de leurs frères chrétiens. Mais ils savent trancher, faut trancher, parfois manier les sanctions. Et pourquoi pas? Faut-il tout laisser faire? Je suis bien d'avis qu'on doit discuter sur la qualité des sanctions. Et il ne faut pas qu'il y en ait outre mesure. Il ne faut pas qu'elles soient stupides, ces sanctions. C'est sûr. Je suis bien d'accord. Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il doit y en avoir. Les apôtres savent, en tous les cas, qu'ils sont incapables par eux-mêmes d'assumer ces responsabilités. On le voit au début, hein. Puis ils n'agissent qu'après avoir reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et ils l'invoquent constamment et ils prient et ils jeûnent avec toute grande décision, on le voit, hein, marquant ainsi leur dépendance par rapport à l'action constante du Christ et de l'Esprit-Saint. Et ainsi, le Christ non seulement a fondé son Église, c'est ce que je crois, mais encore, il envoie son Esprit pour animer et diriger l'œuvre de ses apôtres et de leurs successeurs, évêques et prêtres, oui, même les prêtres. Mais il inspire surtout en particulier, à mon avis, le successeur de Pierre, qui est le chef des apôtres. Ayons donc du respect tout en discutant. Il ne s'agit pas d'être comme des automates et des enfants. Il s'agit d'aimer l'Église, fondée par Jésus-Christ, qui est cette Église que j'aime et que j'espère vous aimer. J'espère que vous avez été bien sage malgré la sévérité de tout ce que je viens de vous dire. Et alors, pour vous récompenser, je vais vous raconter des belles histoires sur Saint-Nicolas. Bon, soyons sérieux, mais c'est très étrange, Saint-Nicolas, hein? Oh, il y a des marins qui se saluent, dit-on, par un souhait très étrange. En Europe, ça. Que Saint-Nicolas soit à ta barre, c'est-à-dire ton gouvernail. Alors, quand on entreprend une petite synthèse sur ce bon grand Saint-Nicolas, bien, chacun éprouve le besoin là, d'invoquer ce bon patron des marins pour nous guider, parce que c'est une mer immense que tout ce qu'on voit au sujet de Saint-Nicolas, mais rien sur sa vie vraiment. C'est comme pour plusieurs saints de l'Antiquité. On constate une immense disproportion entre tout ce que nous savons de sa vie, en somme rien, et le culte qui s'est développé partout. C'est pas qu'on manque d'éléments biographiques vraiment, mais ils sont plutôt tardifs, hein. C'est très douteux. En tout cas, le plus ancien auquel fait allusion l'annonce du martyrologe romain, là, ça date du VIe siècle, dont deux siècles après la mort de Saint-Nicolas de Myre. Ça raconte comment cet évêque, l'évêque de Myre en Lycie, c'est-à-dire en Asie mineure, là, est apparu en songe à l'empereur Constantin pour empêcher l'exécution injuste de trois officiers. On dit que Nicolas était une puissance secourable au service des hommes dans le malheur. Et c'est pour ça qu'à force de dire que Saint-Nicolas secourait tous les gens qui étaient dans le malheur, mais les gens ont eu recours à lui. Alors là, les peuples partout qui étaient bien naïfs, faut dire que la plupart des gens savaient ni lire ni écrire. C'était des gens extrêmement simples, hein? Alors ils allaient vers Saint-Nicolas un peu comme vers une idole, et les peuples ont été conquis par la bonté de Saint-Nicolas. Bon, il n'y a rien de mal d'être conquis par la bonté d'un saint-évêque, hein? Et on n'a pas de vie, donc, de Saint-Nicolas écrite au IVe siècle. Les compositions qui sont trop récentes nous sont parvenues difficilement. Ça permet pas, entre les cas, de déceler une source commune qui mériterait notre confiance. On a attribué à Saint-Nicolas des épisodes qui concernent Nicolas le Sionite, qui avait fondé le monastère de Sion près de Myre, où Saint-Nicolas était évêque, au VIe siècle, qui est mort évêque, lui, de Pinara. Bon, du moins, la vie de ce Nicolas le Sionite nous apprend l'existence d'une basilique qui est dédiée à Saint-Nicolas de Myre. Bon, il y a une légende dorée, vous savez, c'est les légendes où on raconte toutes sortes de choses extraordinaires, écrites au XIIIe siècle, qui nous fournit un résumé commode des belles histoires que je vous ai promises et qu'on racontait sur Saint-Nicolas. Le jour de sa naissance, il se tint debout dans son bain, dit-on. Eh bien, le mercredi et le vendredi, qui étaient des jours de jeûne, eh bien, il jeûnait. Comment? Mais ce petit bébé prenait le sein une fois seulement ces deux jours-là. C'est une sorte d'histoire à bracadabrante. Hein? Et devenu grand, il a appris qu'un voisin était contraint par la pauvreté à prostituer ses trois filles. Ça, c'est une histoire qu'on raconte partout. Alors là, durant la nuit, Nicolas a jeté chez ce pauvre père de famille qui avait trois filles prostituées, il a jeté par la fenêtre une bourse d'or. Et là, on a pu marier la fille aînée. Saint-Nicolas a recommencé deux autres fois, et puis c'est comme ça qu'il a renfloué toute la famille, les trois filles, qui sombraient dans le vice. Alors, élu évêque de Myre, sur une indication, dit-on, expresse de Dieu, il est un prélat modèle, et on dit qu'il assista au concile de Nicée en 325. L'histoire des bourses d'or fait qu'on le représente, j'ai déjà vu des représentations de Saint-Nicolas, il tient trois boules d'or dans ses mains. C'est en souvenir de ce geste de générosité où il a sauvé des pauvres femmes de cet esclavage dans lequel tant d'hommes plongent les femmes pour satisfaire leur niaiserie. Et alors, on raconte qu'un jour, des matelots en péril l'ont invoqué. Saint-Nicolas est apparu, a aidé la manœuvre, la tempête s'est apaisée. On dit qu'aussi en temps de famine, il a ravitaillé sa province. On raconte que l'idolâtrie pourchassée par lui était disparue. Un arbre sacré de la fameuse déesse Diane a été coupé. Et alors là, le démon vexé a pris la figure d'une nonne, d'une religieuse, puis il est venu vers des pèlerins qui s'embarquaient pour aller voir Saint-Nicolas. Alors là, la nonne, la fausse nonne, le démon, les a priés d'offrir à l'église du Saint-Homme une huile excellente et d'en oindre les murs de sa demeure. Mais peu après, est arrivé un personnage d'air vénérable qui, apprenant la chose, s'est écrié « C'est cette saleté de Diane qui vous a parlé, jetez son huile à la mer !» Et alors on l'a versé par-dessus le plat-bord et c'était une flambée sur les flots. Ensuite, il y a des histoires de trois officiers, des anges qui sont venus accueillir l'âme de Nicolas mourant, dit-on, quand il est mort en l'an 343. On dit qu'à son tombeau, son corps a distillé de l'huile et de l'eau. De nos jours encore d'ailleurs, une huile sainte émane de lui et guérit bien des personnes, dit-on. Mais on sait que Saint Charbel Maclouf, je vous le raconterai, ce saint libanais, son corps, qui est enterré au Liban actuellement en 1995, eh bien on dit qu'il y a de l'huile odoriférante qui sort de sa tombe continuellement. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Et c'est authentique, semble-t-il. En tout cas, 47 soldats de Bari, où on gardait les restes de Saint-Nicolas, ont pris le corps de Saint-Nicolas puis l'ont emporté chez eux en 1087. C'est comme ça qu'il était à Bari, dans la ville de Bari, en Italie. On dit qu'un homme avait emprunté à un juif. Il avait pris Saint-Nicolas à témoin qu'il rendrait au plus tôt l'argent qu'il avait emprunté au juif. Et au bout d'un long temps, ben le juif a réclamé son dû, c'est normal. Alors, l'homme a glissé l'or qu'il devait dans un bâton creux. Et avant de jurer qu'il a rendu, il a prié le juif de tenir le bâton. Alors, là, ayant émis le serment, il a repris son bâton avec l'or. Puis il est parti, et en route, un char l'a écrasé, a brisé le bâton, et l'or s'est répandu. Alors, il voulait jouer un tour au juif, au fond, hein. Mais le juif a prié Dieu de ressusciter son malheureux débiteur pour qu'il puisse aller au ciel. Le juif a prié Saint-Nicolas de le ressusciter, et Dieu a obéi. Alors là, voyant que Saint-Nicolas avait ressuscité le juif, le pauvre malheureux, bien le juif s'est converti, s'est fait baptiser, raconte ses vieilles histoires anciennes. On raconte qu'un autre juif, quand il partait en voyage, confiait sa maison à une image de Saint-Nicolas. Et pendant une de ses absences, ben, des voleurs ont fait main basse sur ses biens. Et de retour, ben, le juif a flagellé violemment l'image de Saint-Nicolas. Alors, Saint-Nicolas est apparu aux voleurs, ensanglanté. Il les a semoncé, puis il leur a dit de rendre l'argent aux Juifs. Alors, ils se sont exécutés, ils se sont convertis, puis le Juif aussi, dit-on. Alors, c'est toutes sortes d'histoires, voyez-vous. C'est des histoires sans grand intérêt. On raconte même que, par amour pour son fils qui étudiait les belles lettres, un homme fêtait chaque année la Saint-Nicolas. Alors, il a offert une fois un banquet au prêtre, et déguisé en mendiant, le diable est venu quêter. Alors le père a dit à son fils de lui en donner, mais Satan est parti, et l'enfant court après. Satan l'étrangle. Alors le père se plaint à Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas ressuscite l'enfant. Alors vous voyez que Saint-Nicolas constamment raconte à son sujet toutes sortes de choses qui ne tiennent plus, qui ne tiennent pas debout aujourd'hui. De toute façon, le martyrologe romain commémore le 9 mai la translation des restes à Bari, dont je vous ai raconté tout à l'heure que ce sont des soldats qui se sont emparés des restants de Nicolas pour le rapporter à Bari. C'est ce port Bari sur l'Adriatique, hein, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Et puis, le grand événement survenu au temps de la puissance normande en Italie, nous avons plusieurs récits latins, et des narrations en grec et en slavon, dépendant du latin. Le récit russe est sympathique aux occidentaux, puis même à la papauté, puis le fils russe de la fête, cet avant le schisme, ça, donne la même note de bienveillance à l'égard de la papauté. On a la liste des braves corsaires de Bari qui s'étaient emparés des restes de Saint-Nicolas, on a ça. Et puis, on dit que l'archevêque de Bari, Élie, ils avaient récompensé par des privilèges et des droits spéciaux. C'est toutes sortes d'anecdotes plus ou moins intéressantes, mais il y en a une qui est intéressante. Quand le culte s'est répandu, bien à Rome, où venaient au 7e siècle bien des moines orientaux, bien le pape Nicolas Ier, qui est mort en 867, avait ajouté à la belle église Santa Maria in Cosmedine, ou Sainte Marie in Cosmedine, un oratoire voué à son patron, Nicolas. Saint-Nicolas. Il faut aller visiter Sainte Marianne Cosmédine. C'est une des plus belles églises du monde. Église ancienne, très sobre, très dépouillée. Très, très dépouillée, mais une splendeur.